Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, édition du jeudi 1er juin 2017, en direct de Washington, Idrissa Seydoulia et Anne Albertson pour commencer les titres.
Au Mali, une nouvelle embuscade contre l'armée fait au moins 2 morts.
En Côte d'Ivoire, un accord a été trouvé entre le gouvernement et les démobilisés.
Au Cameroun, on ignore toujours le sort de Mgr Jean-Marie Benoît Bala, porté disparu depuis le 30 mai.
Au Tchad, un militant gardé au secret pendant plus de 20 jours a été remis en liberté provisoire pour des raisons de santé.
Le président Donald Trump a promis d'annoncer cet après-midi sa décision sur un retrait ou non des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Mali, l'armée est tombée hier dans une nouvelle embuscade entre Diabali et Nampala dans la région de Ségou. Bilan provisoire, 2 morts, plusieurs blessés et plusieurs portés disparus. Les détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est tout serein et confiant que ce convoi de ravitaillement des Fama a quitté Diabali afin de mettre le cap sur Nampala, le camp le plus avancé de l'armée malienne dans la région de Ségou. C'est en quittant la zone de Diabali, plus précisément le village de Tingré-Finadji, que des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur les militaires maliens. Les véhicules d'escorte qui se trouvaient derrière le convoi ont été touchés. C'est dans leur mouvement d'apporter du soutien à ceux-ci qu'un autre groupe caché a coupé le convoi en deux. C'était aux environs de 17h et le convoi de ravitaillement de l'armée malienne tomba ainsi dans cette énième embuscade entre Nampala et Diabali. Bilan provisoire, 2 morts, des blessés et plusieurs disparus. Dans le feu de l'action, 2 blessés graves sont arrivés à Diabali avant d'être évacués vers l'hôpital régional de Ségou. Par ailleurs, les écoles et mairies de Gouro et Saré dans le cercle de Youarou, région de Mopti, ont été incendiées ce même mercredi 31 mai 2017 par des individus armés non identifiés. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, un accord a été trouvé entre le gouvernement et les démobilisés. Ces anciens rebelles avaient manifesté leur colère il y a 10 jours à la suite des primes perçues par des soldats mutins. Le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a assuré qu'un accord a été trouvé sans donner de détails. Pour avoir l'avis de démobilisés, Siri Barreau, notre correspondant à Boaké, a joint Mamadou Ouattara, porte-parole adjointe de la cellule 39.
Il faut dire que nous connaissons un peu les événements qui sont déroulés à Boaké. Il fallait chercher d'abord à négocier avec le ministre de l'Intérieur, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. Après les échanges avec le ministre d'État, on a eu à discuter. Il y a eu un accord qui a été retenu. Et je pense que dans l'accord, il y a vraiment une satisfaction entre l'État et nous. L'accord nous a plu et nous avons évaluer le contour de l'accord et nous avons trouvé que c'est pas ça juste valeur et ça intéresse les ex-combattants et c'est ce qu'on attendait depuis fort longtemps. Je vous garantis, il faut le retenir. À ce qui me concerne, il n'y aura plus de soulèvement sur toute l'étendue du territoire après avoir trouvé un accord avec le gouvernement. Donc c'est ce qu'il essaie de dire. L'État a accepté de nous tendre la main et nous sommes arrivés à Abidjan. Il y a un accord qui a été trouvé. Et dans l'accord, vous le saurez très bientôt. Vous allez voir que les choses sont en train de rentrer en ordre et c'est ce qu'il faut retenir.
Au Sénégal, une enquête a été ouverte à la suite de la diffusion sur WhatsApp d'une image jugée offensante pour le président sénégalais Macky Sall. Cette affaire a abouti à l'arrestation d'au moins une femme, selon l'AFP, citant hier des sources sécuritaires et judiciaires. Il ne s'agit pas de caricatures, mais de photomontages salaces sur le président Sall qui ne sont pas publiables, a indiqué une de ses sources. Une dizaine d'autres personnes ont été arrêtées mercredi dans ce dossier, selon les médias locaux, qui n'ont pas publié l'image incriminée.
Au Cameroun, l'on est toujours sans nouvelles d'un évêque de l'Église catholique depuis le 30 mai. Il s'agit de Mgr Jean-Marie Benoît Bala, qui officiait à Bafia, à une centaine de kilomètres de Yaoundé. Son véhicule et ses pièces personnelles ont été retrouvés mercredi sur le pont d'Ebda, une localité située à 90 kilomètres de la capitale. Élément intrigant dans cette affaire, une note laissée dans le véhicule avec la mention « Je suis dans l'eau », nous dit notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
L'eau en question est le fleuve Sanaga, le plus long du Cameroun qui traverse la localité de Bebda à 80 km de Yaoundé. C'est sur le pont de Bebda que le véhicule de l'évêque de Bafia est garé depuis mardi, tard dans la nuit. Tefosa, préfet du Mbam et Nobu, dont Bafia est le chef-lieu.
Les collaborateurs immédiats de l'évêque, son hôtel particulier, disent qu'il serait parti de Bafia autour de 23h30. Quelle direction a-t-il pris? On ne sait pas.
Les recherches entamées dans le fleuve par les sapeurs-pompiers venus de Yaoundé n'ont abouti à rien. Elles reprennent ce jeudi. À ce stade, l'église catholique romaine préfère souligner que l'évêque est porté disparu. Marceline Manga, assistante de communication à la conférence épiscopale nationale du Cameroun.
On n'a pas vu le corps, il n'y a eu aucun témoin, donc il pourrait bien être ailleurs.
L'évêque de Bafia, porté disparu, avait été nommé en 2003. Yaoundé, Emmanuel Jeloutap, VOA Afrique.
Samuel Mebiam, fils de l'ex-premier ministre du Gabon, Léon Mebiam, a été condamné à 2 ans de prison aux États-Unis dans une affaire de corruption. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Samuel Mebiam, 43 ans, est reconnu coupable d'avoir servi d'intermédiaire dans le versement de pots de vin 2007 et 2017 à des responsables gouvernementaux au Tchad et au Niger pour obtenir des contrats et des concessions minières. Résident à Paris avant son arrestation, Mebiam était poursuivi au titre d'une loi américaine qui permet de sanctionner les entreprises et individus coupables de corruption partout dans le monde. À l'époque, il travaillait pour une entreprise gérée en partie par Oxfam Capital Management. Cette société a été condamnée fin septembre à payer une amende de 413 millions de dollars par la SEC, le gendarme boursier américain, pour mettre fin aux poursuites qui le visaient. Ce groupe était accusé d'avoir versé des pots de vin pour obtenir des contrats miniers au Tchad, au Niger, en Guinée et en République démocratique du Congo.
Au Tchad, un militant gardé au secret pendant plus de 20 jours a été remis en liberté provisoire mardi pour des raisons de santé. Le point avec Eric Manirakiza.
Maoundé Déclador, porte-parole du mouvement « Ça doit changer », a bénéficié d'une remise en liberté provisoire, a annoncé hier son avocat, Maître Boniface Mouandil Madji. Il a déclaré que son client souffre de fortes douleurs, a vomi du sang, mais assure qu'il n'a pas été torturé. Le militant a été inculpé mardi de troubles à l'ordre public après sa détention à Moundou, deuxième ville du pays. Le mouvement citoyen IINA, on est fatigué, dont 2 militants ont été arrêtés et condamnés en avril à 6 mois de prison avec sursis, avait appelé début mai à sa libération. Le mouvement demande aussi la libération de Maïdine Babouri, blogueur tchadien détenu depuis mi-septembre à la suite de propos critiques envers le régime d'Idriss Déby sur Facebook. D'ailleurs, un hashtag #FreeBabouri a été lancé sur Twitter.
Près de 2000 personnes ont de nouveau manifesté mercredi soir à Al Hoceima, ville du nord du Maroc, pour exiger la libération de Nasser Zefzafi, leader de la contestation populaire qui secoue la région depuis 7 mois. Pour la 6e nuit consécutive, les protestataires ont battu le pavé dans le quartier de Sidi Abed au cri de « Nous sommes tous Nasser Zefzafi ». Les forces anti-émeutes s'étaient positionnées en retrait du quartier investi par les manifestants après la rupture nocturne du jeûne du Ramadan.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, le président Donald Trump a promis d'annoncer cet après-midi sa décision sur un retrait ou non des États-Unis de l'accord historique de Paris sur le climat, conclu fin 2015. Monsieur Trump, dans un tweet, a dit qu'il en fera l'annonce à 15h locale à la Maison-Blanche, terminant son message par le slogan de sa campagne « Rendre à l'Amérique sa grandeur ». Selon plusieurs agences de presse, le président américain aurait décidé de se retirer de l'accord de Paris qui a été entériné par 195 pays. Si tel venait à être le cas, ce serait un rejet majeur d'une politique de son prédécesseur Barack Obama, rejet qui plairait à sa base tout en rendant furieux les défenseurs de l'environnement et les alliés de l'Amérique.
Retour sur l'énorme attentat au camion piégé qui, mercredi matin, a fait au moins 90 morts et plus de 300 blessés dans le quartier diplomatique de Kaboul, capitale de l'Afghanistan. Selon un porte-parole du département d'État, 11 contractuels américains font partie des blessés. L'explosion a eu lieu non loin de l'ambassade allemande, dont un garde afghan a été tué et un certain nombre d'employés blessés, selon le ministre allemand des Affaires étrangères sur Twitter.
Pour l'agence de renseignement afghane, NDS, le réseau Haqqani, basé, dit-on, au Pakistan voisin et qui se bat aux côtés des talibans, serait responsable de l'attentat. Le NDS a laissé entendre que les services secrets pakistanais, l'ISI, ont aidé à planifier l'attaque. De précédentes accusations de ce genre ont toujours été rejetées par les officiels pakistanais.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Abdourahmane Dia.
Lancement en Côte d'Ivoire d'une campagne de promotion de la bancarisation. À cette occasion, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Assaoré Jacques, a indiqué que l'absence des établissements financiers à l'intérieur du pays, l'état de dégradation des routes et l'insécurité sont, entre autres, les facteurs qui empêchent les populations rurales d'accéder aux services de ces établissements. L'objectif est de porter le taux de bancarisation à 20%. Il était de 16% en 2016. Le gouvernement égyptien prévoit une enveloppe de 2,5 milliards de dollars en réduction d'impôts sur le revenu, primes pour les fonctionnaires et augmentation des pensions et subventions pour la prochaine année fiscale qui commence le 1er juillet. Ce plan d'aide sociale pour soutenir les familles à faibles et moyens revenus fait partie des efforts visant à adoucir les difficultés engendrées par les réformes économiques. Le gouvernement béninois a signé hier un accord de partenariat avec une ONG pour protéger le parc animalier de Pendjari, un des derniers d'Afrique de l'Ouest menacé par la dégradation des infrastructures, le manque de surveillance et le braconnage. L'État investira 5,2 millions d'euros sur 10 ans sur un projet global de 23 millions d'euros pris en charge en partie par des fondations pour la protection de l'environnement.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
Match amical hier entre les Pays-Bas et le Maroc.
Oui, le match se jouait au stade Adrar à Agadir au Maroc avec cette victoire aux 2-1 en faveur des Hollandais.
En football mondial des moins de 20 ans, la Zambie en quart. Après un match fou face à l'Allemagne.
Oui, la Zambie victorieuse de l'Allemagne 4-3 en prolongation après avoir encaissé le but de 3-3 dans le temps additionnel. S'est qualifié donc pour son premier quart de finale au Mondial des moins de 20 ans hier en Corée du Sud. Outre la Zambie, l'Uruguay vainqueur de l'Arabie Saoudite 1-0 et l'Angleterre qui a éliminé le Costa Rica 2-1 ont également validé leur ticket pour les quarts qui auront lieu de dimanche à lundi prochain. Les trois derniers huitièmes de finale se déroulent ce jeudi.
En football, Arsène Wenger prolonge à Arsenal.
Oui, l'entraîneur français de 67 ans a été prolongé pour 2 saisons à la tête du club anglais avec l'ambition de redresser la barre après une saison en pleine tempête. Il prolonge son contrat au moment où les fans sont à bout de nerfs. Une absence de la Ligue des Champions et un naufrage contre le Bayern Munich. Seule la 7e victoire en Coupe d'Angleterre samedi a permis à Arsène Wenger de redorer un peu son blason.
Roland Garros, Nadal passe le 2e tour.
Oui, Rafael Nadal a maintenu la cadence pour passer facilement le 2e tour de Roland-Garros mercredi aux dépens du néerlandais Robin Haas, 46e mondial, 6-1, 6-4 et 6-3. L'Espagnol en est désormais à 19 victoires sur terre battue cette saison contre une seule défaite à Rome contre l'Autrichien Dominique Thiem. Il a remporté les tournois de Monte Carlo et de Barcelone pour la 10e fois et celui de Madrid pour la 4e fois. Il affrontera au prochain tour le Géorgien Nicolas Basilashvili qui a écarté le Serge Victor Troïki.
Début ce soir de la finale NBA.
Oui, pour la 3e année consécutive. La finale de basketball oppose Cleveland à Golden State. Ce duel attendu depuis le début de la saison va départager deux équipes déjà entrées dans l'histoire. 7 joueurs qui débuteront à Oakland le match numéro 1 ont en effet participé au All-Star Game en février dernier. Le match qui oppose chaque année les meilleurs joueurs NBA. Golden State, meilleure équipe de la saison régulière avec 67 victoires et 15 défaites, a foncé en finale En seulement 12 matchs, tous gagnés avec un écart moyen de 7,3 points face à Portland 4-0, Utah 4-0 et San Antonio également 4-0. Du jamais vu dans l'histoire des playoffs NBA. Cleveland a eu besoin des matchs de plus, mais a fait tout aussi forte impression en dominant tour à tour Indiana 4-0, Toronto 4-0 et Boston 4-1.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, l'arrêt de la Cour constitutionnelle réhabilitant le gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe, déchu par une motion de censure de l'Assemblée provinciale, continue de susciter des réactions. En voici quelques-unes recueillies par notre correspondant à Lubumbashi, Narval Mabila.
L'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a jugé non conforme la motion de censure contre le gouverneur Jean-Claude Kazembe et demandant sa réhabilitation dans ses fonctions a suscité de nombreux débats chez plus d'un louchois rencontré au centre-ville de Lubumbashi. Critique face à la Cour constitutionnelle et une certaine allergie à son éventuel retour annoncé.
Ça va amener la confusion au niveau de la province. En rentrant, il va travailler avec quel parlement? Parce que c'est le parlement provincial, c'est l'organe de contrôle du gouvernement provincial. Ils ont voté la motion de censure là. Je crois que c'est 26, hein? Sur 26. Mais en tout cas, je ne vois pas que la décision de la Cour constitutionnelle, en quoi est-ce qu'elle peut aider la bonne marche de la province. C'est une Cour qui est inféodée à un certain courant politique.
Pour nous, l'arrêt de la Cour ne nous fait absolument rien parce que tout ça, c'est le jeu de la majorité. Ils veulent donc démettre celle qui veut ou bien ils veulent donc mettre quelqu'un au pouvoir comme ils le veulent. Alors la Cour ne fait que le travail de ceux-là qui l'ont nommé, de ceux-là qui l'ont constitué.
Le retour annoncé de Jean-Claude Kazembe, apprécié par les uns et détesté par la majeure partie, serait à la base d'une guerre de clans sans merci. C'est grâce à la police que les députés provinciaux du Haut-Katanga ont échappé à une attaque de jeunes reconnus par plus d'un louchois proche de la majorité présidentielle conduite sous les ordres de Patty Benz, membre du PPRD, ont été maîtrisés par la police. Jean Bosco Galenga, général de la police, revient sur cette arrestation.
C'est un groupe de jeunes qui a été pris en charge depuis un certain temps par les services, parce qu'informés du fait qu'ils voulaient s'attaquer aux membres de l'Assemblée provinciale, c'est-à-dire aux députés provinciaux, pendant qu'ils seraient en plénière. C'est ainsi que ce matin, lors de la plénière, un dispositif a été déployé autour de l'Assemblée provinciale. Également, les services, nos services d'intelligence, pistaient ce groupe-là jusqu'à ce qu'ils soient surpris, pendant qu'ils étaient pratiquement dans leur dernière étape, au bar Hexagone, situé à côté de la FTNC, c'est-à-dire à une centaine de mètres de l'Assemblée provinciale, où ils étaient, pour des raisons évidentes, en train de s'enivrer. Du whisky fort et frélaté à forte dose d'alcool qui voulait s'étourdir justement pour qu'ils aillent les attaquer à coups de machettes et autres. D'ailleurs, nous les avons surpris avec quelques machettes neuves achetées pour la circonstance et je crois que deux haches.
Lubumbashi, Narval Mabila, VO Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Au Tchad, grève sectorielle à l'enseignement supérieur, nous signale notre correspondant André Kotmajinger, qui parle de grogne dans les sections de différents instituts et universités à travers le pays. Son reportage.
Les perdants de ces grèves sectorielles sont les étudiants, car ils ne connaissent ni la date de la rentrée académique, ni celle de la fin de leur formation. Et c'est pendant que ceux de l'Université de N'Djamena s'activent pour achever l'année académique 2015-2016, avant d'entamer la nouvelle année académique 2016-2017, que le CINEX, section de l'Université de N'Djamena, est à sa troisième semaine de débrayage. Elle exige le paiement de 8 mois des primes de recherche, 5 mois de salaire pour les enseignants vacataires, les contractuels et personnels d'appui. L'Union nationale des étudiants tchadiens, section de N'Djamena, programme une marche pacifique ce mercredi 31 mai pour soutenir les enseignants en grève et protester contre l'élasticité de l'année académique 2015-2016. Mais, hélas, la manifestation a été interdite par le ministre de la Sécurité publique. Réaction du secrétaire général de l'UNET section de N'Djamena, Gali Abdelaziz.
Il n'y a jamais une autorisation dans ce pays, surtout pour la marche pacifique. Je crois que c'est une manière très orchestrée pour prouver encore aux étudiants Si vous manifestez, c'est la maison d'arrêt. Cela ne fait plus peur aux étudiants. Parce que tu manifestes avant la maison d'arrêt, un jour la maison d'arrêt deviendra une faculté. Mais c'est la seule occasion pour que les étudiants ne possèdent pas par les casses. Mais comment on va s'exprimer si aucune solution ne sera trouvée pour nos enseignants? Ce qui veut dire que l'année n'est plus élastique, elle est morte. Je crois que les étudiants vont mourir dans le rue. Nous sommes prêts à aller à un combat farouche. Parce que c'est notre avenir que les gens veulent enterrer. Tu passes 7 ans, 8 ans à l'université pour avoir une licence, mais c'est inadmissible.
Le CINEX, session de l'Institut National Supérieur des Arts et métiers du bulletin dans la région de Wadi Fira observe également la grève depuis plus d'une semaine pour revendiquer le paiement de 3 mois d'arriéré de salaire, des primes de jury et des heures supplémentaires de 3 dernières années. Onkuba Timothée est le secrétaire général de la dite section.
Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a fait ce sacrifice. Nous voudrons accompagner le gouvernement, mais on évolue de médiocrité en médiocrité. Quand on parle de l'enseignement, il faut qu'il y ait des conditions minimum pour pouvoir bien transmettre. Donc, si le gouvernement ne prend pas la situation des corps enseignants de l'ISAM, on va continuer sur cette situation.
Au rectorat de l'Université de Ndjamena, le personnel ferme aussi les portes depuis plus d'une semaine pour revendiquer 5 mois d'arriéré de salaire. Le coup de gueule du secrétaire général du syndicat des agents de l'administration générale du Tchad section de l'Université de Ndjamena, Klamadji Nadji Torna.
Si le salaire tombe aujourd'hui on ouvre le rectorat. Nous ne faisons pas la politique, c'est une situation vraiment intenable.
La fermeture de cette institution n'est pas sans conséquence. Beaucoup de jeunes diplômés qui cherchent à récupérer leur diplôme pour aller étudier à l'extérieur sont bloqués. André Kodumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h sur 24 sur VOA Afrique, Ndjamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Burundi, pratiquement tous les quartiers de Bujumbura, la capitale, font face à un manque de courant électrique. L'administration publique, tout comme le privé, tourne au ralenti et la situation est particulièrement difficile pour ceux qui vivent de petits métiers. Le gouvernement parle de faibles précipitations, insuffisantes donc pour les centrales thermiques de Bujumbura. Reportage de notre correspondant Christophe Kourounziza.
Ce bruit de moteur électrique devient le quotidien pour les nationaux ou étrangers vivant dans la ville de Bujumbura, située près du lac Tanganyika, un des plus profonds du monde après le Baïkal. Les quartiers des Biza, Nyakabiga, Bouyenzi et autres centres-villes regorgent de petits et gros moteurs électriques pour aider les mécaniciens, électriciens, garagistes et propriétaires de petits métiers pour permettre de vivre au quotidien. L'administration étatique et privée est lourdement concernée car le délestage peut durer plusieurs heures. Le chef de garage travaille depuis 28 ans. Il reconnaît que la situation de son garage ne s'améliore guère depuis le début des délestages.
Nous faisons face à de sérieux problèmes dans notre travail au quotidien. La soudure, la peinture, tout est électricité. C'est vraiment difficile ces derniers temps. Même celui qui possède un groupe électrogène ne peut pas travailler car il n'y a pas de gasoil. Nous demandons au gouvernement de l'électricité pour notre travail au quotidien.
Ce cri de détresse du garagiste, c'est le même que celui d'un coiffeur que nous avons rencontré près de l'endroit communément appelé Bata au centre-ville, en face de l'ancien marché central. Ce coiffeur reconnaît la diminution des rentrées, le rendait ainsi incapable de payer ses dettes.
Le problème que nous avons, c'est de les déstages. Tout simplement, c'est ça. Nous gagnons un peu de l'argent.
Un électronicien rencontré à l'avenue de la mission de Bujumbura affirme que les temps actuels sont vraiment difficiles pour bon nombre de citoyens burundais car ils sont souvent traités d'escrocs par les clients à cause du manque d'électricité.
Un client vous amène un appareil pour réparer, vous lui donnez un rendez-vous et après quelques minutes, il y a coupure de courant. Donc là, quand il revient, il vous chambarde. Il dit que vous êtes un voyou, vous êtes un escroc, vous ne faites rien. Alors que c'est à cause de la coupure de courant.
Ces dames travaillant dans une société d'assurance veut que le délestage soit programmé.
On se réveille très tôt le matin et arrivé au bureau, on trouve qu'il n'y a plus de courant. Avec les déplacements, matin, soir, nous consommons sans produire. Il faut qu'on nous avise. Et puis le jour où il y a du courant, on sait et on travaille.
Plus loin, près de l'église Saint-Michel au centre-ville, une femme travaillant pour une société privée estime que l'on ne peut pas aujourd'hui parler de délestage, mais plutôt de manque d'électricité.
S'il y a délestage, c'est que lundi on a électricité, mardi il n'y en a pas, puisqu'on a donné aux autres. Mais maintenant, c'est absence d'électricité tout court. Et c'est toute la ville presque.
Le service communication du directeur de l'électricité à la régie des eaux indique que les faibles précipitations restent la cause principale des niveaux d'eau très bas dans les lacs de retenue qui n'arrivent plus à alimenter les centrales thermiques. En outre, le même service remarque que le barrage de Guegura ne produit plus que 6 MW à la place des 18, tandis que le barrage de Mouguere n'en produit que 3 à la place des 8 mégawatts. Depuis l'année 1988, aucune centrale thermique n'a été construite au Burundi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Retour sur la situation au Maroc, c'est-à-dire la vague de tensions dans le Rif, région du nord du royaume. Depuis le début du mois de Ramadan, plusieurs centaines de personnes protestent contre les conditions économiques et sociales. Le leader de ce mouvement de contestation a été arrêté, mais la grogne ne faiblit pas. Pour en savoir plus, Salwa Jafari a joint par téléphone l'analyste politique Mustapha Tossa.
Les faits ont commencé par un accident à la limite très stupide. C'est un vendeur de poissons à la sauvette qui s'est fait écraser par un camion poubelle devant témoin. C'était une sorte d'étincelle qui a provoqué de nombreuses manifestations et de nombreuses colères de la part des gens de Tal Hussein. Alors cette étincelle avait été le début d'une série de manifestations de colère des gens qui est devenu au fil des mois très revendicatif. Et ce qui était intéressant à noter, c'est que cette série de manifestation a duré à peu près 7 mois. Leurs revendications sont d'ordre social et économique. Alors on sait que cette région, cette ville de Hussein Mar souffre depuis des années d'une espèce d'enclavement et de marginalisation. Il n'y a pas beaucoup de projets économiques et il n'y a pas beaucoup de services publics.
Monsieur Tossa, parlons un peu de la gestion de l'État marocain face à ces manifestations. Il y a eu certains dérapages, on l'a tous vu dans certaines vidéos. Quelle est la stratégie de l'État dans ce cas particulier et est-ce une bonne stratégie à votre avis?
En fait, la stratégie de l'État, ils ont montré leur incapacité à découpiller un conflit social. Il y a eu des manifestations depuis 6 mois et pendant 6 mois, on a laissé faire. Chacun avait son propre agenda. On sait très bien qu'à Rabat et à Casa, à l'intérieur des partis politiques, il y avait un gouvernement qui était en train de se former. Il y avait des forces politiques qui avaient intérêt à ce que ça se forme, d'autres qui avaient intérêt à ce que ça capote. Donc la gestion a été un échec total parce qu'on ne peut pas laisser un mouvement social grossir de cette manière-là jusqu'à risquer une confrontation, une rupture totale avec le pouvoir central. Donc c'est un échec. Et en plus, quand il y a eu l'envoi d'une délégation ministérielle, les arguments présentés par cette délégation apparemment n'ont pas été suffisamment convaincants. Il n'y a pas eu de savoir-faire pour gérer cette crise, à tel point que s'il n'y avait pas l'erreur qui a été commise par Nasser Zardari, il n'aurait jamais pu être arrêté de cette manière-là. Mm-hmm. Nasser Zardari a commis une erreur politiquement et socialement mortelle, c'est de rentrer dans une mosquée, de prendre par force la parole et de prêcher un discours religieux qui est aux antipodes de la philosophie religieuse du pays. Donc il a commis une erreur et c'est ce qui a permis à la justice marocaine de lancer un mandat d'arrêt pour l'arrêter et donc pour le juger.
Joint au Maroc, l'analyste politique Mustapha Tossa.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, un état des lieux des relations entre les États-Unis et l'Europe après la récente tournée du président américain. Berlin parle de partenariat amoindri tant au plan commercial que militaire. Donald Trump est d'avis que les Américains ne tirent pas totalement profit de ce partenariat. Les rapports américano-européens sont-ils à la croisée des chemins après des décennies d'entente? Quels sont d'après vous les avantages ou désavantages pour l'Afrique d'un possible éloignement américain des Européens? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.